Alors aujourd'hui, nous recevons l'Artag et la Maison des Passages, donc dans les personnes de Charlène Béfi, qui est coordinatrice insertion à l'Artag, et Aurélie Amirouche, qui est chargée de mission culture et communication. Donc l'Artag, qui est l'association régionale des Tziganes et de leurs amis gadjés, et la Maison des Passages, notamment pour une question d'actualité, qui est le festival itinérance Tzigane, co-organisé donc, par l'Artag et la Maison des Passages, et qui se déroulera de la mi-novembre à la mi-décembre, donc à la Maison des Passages, et qui sera aussi l'occasion de présenter vos deux associations, et notamment l'activité de l'association régionale des Tziganes et leur ami Gadjé. Donc on vous remercie d'avoir accepté notre invitation, et on est très heureux de faire une émission sur ce sujet, puisque c'est la première fois qu'on fait une émission sur les voyageurs. Donc je vous propose de commencer par la présentation, donc de l'Artag, donc son origine, et puis revenir un petit peu justement sur ce qu'on appelle les gens du voyage, les Tziganes, parce qu'il y a aussi beaucoup de représentations qui peuvent être fausses, de préjugés, et puis voir aussi quelles sont vos activités qui sont très diverses.
Tout à fait. Ben, merci déjà de votre accueil. On est bien content de venir vous parler du festival, et puis plus largement des causes pour lesquelles on se bat avec la Maison des Passages notamment. Donc effectivement, l'Artag, elle a été créée en 1985 par des gens du voyage et une gadji, qui était assistante sociale, donc une gadji, c'est-à-dire une personne qui n'était pas du voyage. Il faut savoir que le département du Rhône a accueilli de nombreuses familles depuis bien longtemps. Dans les années 50 déjà, on voyait pas mal de lieux de vie de voyageurs plutôt sédentaires qui sédentarisaient. Lieux de passage aussi de groupes, hein, puisque entre la Saône et le Rhône, les voyageurs s'arrêtaient notamment pour travailler en tant que vanniers, par exemple.
Oui, parce que souvent, on a l'image, les voyageurs, bon, il y a les Saintes-Maries de la mer, mais en fait, voilà, il y a aussi des lieux de passage, oui. Où ils restent.
Et de lieux de vie, voilà.
Temps, ouais. Dans toute la France.
Bien sûr, dans toute la France. Et c'est vrai que, dans le Rhône, comme dans d'autres agglomérations, enfin en tout cas sur l'agglomération lyonnaise, avec l'urbanisation qui grandissait dans les années 60, les voyageurs étaient vraiment en périphérie des villes, et les conditions de vie étaient de plus en plus précaires dans les années 70, 80. Et c'est comme ça en fait que l'association aussi est née, cette assistante sociale qui partait à la rencontre comme ça des familles, s'est associée à accompagner des voyageurs qui avaient envie de changer un peu la donne.
Donc il y avait des revendications, c'était aussi pour porter cette parole par rapport, pense notamment aux collectivités locales, parce que quand on veut s'installer, c'est...
Donc l'idée c'était ça, d'aller frapper aux portes des communes, des mairies, de la préfecture, pour se faire entendre, et puis avoir d'obtenir de meilleures conditions, notamment la domiciliation, hein, Charlène vous en parlera, mais qui donne un peu l'accès aux droits. Les voyageurs se sont comme ça constitués en association pour faire changer les choses. Donc peut-être revenir sur les mots, les publics, hein, parce que c'est vrai que l'appellation Tzigane, nous qu'on utilise, les voyageurs l'ont choisie à l'époque parce que c'est aussi l'appellation qui englobe plusieurs communautés. Donc quand on parle de Roms, de Gitans, de Manouches, ce sont des communautés distinctes.
Oui, parce que souvent on pense, est-ce que c'est des Français ? Est-ce que c'est plutôt des personnes qui viennent de Roumanie ?
Voilà, donc il y a les deux cas, c'est-à-dire que parmi toutes ces communautés, il y a des Roms ou des Gitans ou des Manouches qui peuvent être Français, d'autres qui peuvent être bien sûr d'autres nationalités. En tout cas, en France, on compte à peu près 450 000 gens du voyage. Donc quand on dit gens du voyage, c'est une appellation purement administrative, donc française. Ce sont des personnes de nationalité française. Et parmi du coup toutes ces personnes, on compte plusieurs communautés. Ce qu'on disait, Manouche, Gitan, Roms, et puis aussi des Yéniches. C'est une autre communauté. Donc chacun, effectivement, a aussi une culture, des mots, en tout cas une langue d'origine qui peuvent varier, et puis aussi des habitudes de vie. Voilà.
Et qui peuvent être différentes, mais elles, c'est des communautés qui se mélangent, qui partagent les mêmes lieux de vie.
Qui peuvent se mélanger et partager les mêmes lieux de vie. Oui, c'est sûr. Oui. Et puis, voilà, et les Roms, alors nous, qu'on appelle plutôt Roms migrants, puisque qui viennent, pour le coup, de migrations qui sont plus récentes. Parce qu'il faut savoir que les Tziganes, en tout cas, on note la date de 1425, je crois, pour les premières arrivées, en tout cas, de Tziganes en France, et notamment dans la région, dans l'Ain. Donc voilà, ils sont... pour certains, en tout cas français, depuis des siècles et des siècles. Et les Roms, nous, qu'on dit migrants, sont arrivés plus récemment. Donc c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes statuts, hein, pas les mêmes problématiques, pas les mêmes besoins. Donc sur la région lyonnaise, la distinction s'est un peu faite comme ça, entre bon, l'Artac qui s'occupait plutôt, qui accompagnait plutôt les gens du voyage, et puis d'autres associations comme Forum Réfugiés, comme l'Alpil, oui, qui eux sont plus auprès des Roms, voilà, migrants.
D'accord. Et quand vous dites association régionale, c'est large ou c'est vraiment la région lyonnaise?
Ah ben Charlotte va vous en parler, ouais, de la situation aujourd'hui.
Par rapport au territoire d'intervention de l'Artaï, effectivement, depuis le démarrage de l'Artaï, on était plutôt sur le département du Rhône et on s'est étendu plus tard sur le département de l'Ain. Et depuis peu, on a des actions qui vont sur le territoire de l'Ardèche aussi. Donc on s'est quand même pas mal développé par rapport aux missions et à l'action globale de l'association. Donc je vais vous présenter un petit peu les missions de l'Artaï, du coup. Et donc par rapport aux actions, en fait, nous, on est un petit peu... on accompagne les voyageurs dans leur quotidien. On est un peu la passerelle entre les voyageurs et le droit commun, ce qui peut se passer en tous les cas pour eux. Et du coup, on est vraiment, en tous les cas, c'est la volonté de l'Artaï d'être dans une démarche de coparticipation. On essaye d'associer le maximum les voyageurs aux actions qu'on mène. Et notamment, donc, par rapport à toutes les missions qu'on peut avoir au sein de l'Artaï, donc on a le service de domiciliation. Donc on en parlait juste avant. La domiciliation est très importante pour les voyageurs puisqu'elle leur permet d'avoir une adresse postale. Et du coup, qui leur permet d'avoir une adresse administrative.
Quand on parlait de l'accès au droit, ça permet aussi d'enclencher un certain nombre de choses.
Aujourd'hui, en France, il faut se dire que tout le monde, normalement, est censé avoir une adresse administrative. C'est important, ça permet d'ouvrir ses droits. Et que si on n'en a pas, ce n'est pas possible. Nous, on leur permet ça, dans la mesure où ils voyagent aussi, on leur met en place un système de réexpédition du courrier, etc. Le but, c'est vraiment de garder le mode de vie des voyageurs, de ne pas freiner le mode de vie de la vie en caravane, du voyage dans la France.
Donc c'est un mode de vie qui peut être à la fois itinérant par moment et puis plus sédentaire à d'autres moments.
Tout à fait. Le voyage est très organisé dans les familles. Hein. On a des gens qui voyagent plutôt dans certains départements, d'autres qui font des déplacements régionaux, d'autres nationaux. Mais ça, nous, justement, on l'intègre dans l'accompagnement qu'on va faire. Par rapport à d'autres actions qu'on peut mener au niveau de l'Artaï, on a la médiation et la coordination sociale sur les aires d'accueil. Donc c'est là où les personnes stationnent, c'est leur lieu de vie. Donc là, on intervient aussi en lien avec les voyageurs. On a la médiation des grands passages, donc qui se déroule de avril à octobre. Voilà. On travaille également sur tout ce qui est scolarisation des enfants. Accompagnement scolaire, et puis on a également un volet animation aussi, projet jeune, on a toute une partie aussi sur l'accompagnement social dans le cadre de l'insertion professionnelle et sociale pour les familles, où on inclut le dispositif RSA, on a un développement sur l'insertion économique. On a toute une partie, un pôle habitat aussi.
Un pôle habitat, c'est pour ceux qui souhaiteraient s'installer alors, un peu définitivement ou...
Effectivement, le pôle habitat, en fait, accompagne les voyageurs qui auraient l'envie de se sédentariser, du coup, de faire une demande d'appartement, ou alors de pouvoir d'améliorer leur habitat, tout ce qui est demande de pré-caravane, etc. Enfin, voilà, c'est très vaste, en tout cas, en termes d'habitat. Et puis, il y a aussi, aujourd'hui, on a un cabinet d'études aussi. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Ce cabinet d'études, en fait, l'idée, c'est qu'on est sollicité par des départements.
Les départements, les conseils départementaux.
Voilà. Mmh. Donc, dans le cadre des plans de schémas départementaux, où on fait une évaluation, un diagnostic des gens du voyage, et on fait des préconisations, en fait, pour qu'il y ait une amélioration des conditions de vie en termes d'habitat.
Par rapport à ce que vous disiez, c'est un peu un rôle de médiation, donc avec ces acteurs institutionnels, peut-être pour faire connaître les pratiques et les besoins des...
Effectivement, l'idée, c'est de prendre en compte les besoins des voyageurs sur les territoires et de mettre en place des choses, enfin faire des propositions pour qu'il y ait des améliorations de leurs conditions de vie. Parce qu'on a encore aujourd'hui quand même des conditions de vie qui peuvent être compliquées. Par exemple, en Ardèche, on a encore des gens qui n'ont pas complètement accès à l'eau, accès à l'électricité, ça reste rare, mais c'est encore le cas. Et du coup, ça, on est aussi là pour faire évoluer un peu les choses dans ce sens-là.
Et parce qu'aussi, on a des institutions qui ont des schémas de pensée et qui peuvent, avec des bonnes intentions, ne pas forcément correspondre, enfin, que leurs actions ne correspondent pas forcément à ce qui serait attendu et aux besoins des voyageurs.
Oui, tout à fait. Nous aussi, dans notre travail avec les voyageurs, dans la coparticipation, nous-mêmes, on ne peut pas penser à leur place. Et du coup, si on ne construit pas les choses avec leur vision à eux, leur mode de vie, c'est sûr que ça ne peut pas forcément fonctionner. Donc, on est bien là pour prendre en compte leurs difficultés, leurs habitudes, pour pouvoir construire un peu tout ce qu'on peut mener. Et puis après, on a aussi une forte... action dans le cadre de la formation où du coup on a Aurélie justement qui est sur ce volet là et des interventions de sensibilisation dans les écoles voilà.
Et je voulais revenir justement pour arriver à faire de la coparticipation. Donc j'imagine que le conseil d'administration de l'Artag, il est, enfin, il y a beaucoup de voyageurs dedans, où ça se partage avec des gadgets, des voyageurs.
Voilà, bah, l'idée en tout cas, l'idée au départ, c'est d'être à parité entre guillemets entre voyageurs et gadgets. Donc dans le conseil d'administration aussi, au sein des salariés, on a aussi des salariés qui sont parfois voyageurs, notamment à la domiciliation. Voilà, après, effectivement, la participation, donc dans toutes ces actions de sensibilisation, de formation, là, c'est vraiment des moments où je pense où les voyageurs se retrouvent, parce que bah, ils ont voilà, toute leur place pour bah, co-former les gens. Alors là, par exemple, on mène un projet sur le principe d'ATD Carmonde de co-formation, donc là, sur le principe du croisement des savoirs et des pratiques entre des personnels soignants, monde médical, et puis des gens du voyage qui chacun forme l'autre et apporte son savoir sur son système de pensée, de pratique. Voilà, ça c'est des formations effectivement qui sont hyper intéressantes et qui font bouger les choses pour le coup, des pratiques aussi dans les hôpitaux. Voilà, ça c'est des actions qu'on peut mener.
Et justement, comme on parle de personnes itinérantes, est-ce que vos actions, bah, vous les faites aussi en itinérance, ou est-ce que vous avez un lieu fixe, ou est-ce que vous allez aussi
On bouge sur les terrains, effectivement. Donc, on n'a pas forcément évoqué, enfin, en tout cas, sur le Rhône, il y a 25 aires d'accueil qui existent. Donc, nous, on intervient sur 23, il me semble, encore aujourd'hui. Donc, en tant que pour la médiation, mais aussi sur de l'animation ou sur l'accompagnement aussi, parfois sur certains terrains, l'accompagnement à la scolarité. Enfin, voilà, c'est vraiment un accompagnement qui peut être global selon les demandes, les besoins. Mais c'est toujours du lien, effectivement, entre les acteurs locaux, les familles. Voilà, c'est vraiment cette idée de passerelle. C'est vraiment l'idée fondatrice de la structure.
Et vous êtes combien de salariés ?
25, je crois, aujourd'hui.
Avec des profils
Avec des profils bien variés, des travailleurs sociaux, de gens qui sont du milieu universitaire, du social, de l'économie. Voilà, c'est très, très varié. Ouais. Et puis, voilà, on intervient sur les trois départements, donc c'est plus parfois sur certaines missions, sur la France aussi, pour certaines missions spécifiques, notamment liées à l'habitat.
Et vous avez des liens avec d'autres associations du même type, dans d'autres régions ?
Oui, alors on on appartient à une fédération hein, qui est la FNASAT Gens du Voyage, donc qui fédère, alors je crois que c'est un peu plus de 80 associations qui sont pas forcément sur le même type que nous, parce que ben voilà, le milieu associatif a connu quand même bien des changements depuis ces dernières années. Donc beaucoup d'associations ont malheureusement disparu, d'associations de voyageurs ou qui accompagnaient des gens du voyage. C'est vrai que nous, on s'est un petit peu étendu.
Et vous avez peut-être aussi évolué dans vos missions depuis 1985.
Et on a bien évolué dans nos missions, c'est clair.
Et dans les besoins.
Puisqu'au départ, c'était une association constituée de bénévoles. Il y avait un salarié, et puis bon, voilà. Dans les années 90, effectivement, on a changé de structuration.
Mais vous avez toujours des bénévoles ?
On a toujours des bénévoles. Voilà, donc ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, l'intérêt, en tout cas, pour certains, ils se retrouvent dans ces projets de sensibilisation, d'action. Donc on parlait de tout ce qui était intervention en milieu scolaire, parce que voilà, on estime qu'effectivement, toutes les discriminations ou en tout cas toutes les voilà tout ce que peuvent vivre les gens du voyage peuvent changer aussi ben voilà grâce à ces actions là de sensibilisation, d'information. On en reparlera après, mais il y a des sujets qui sont quand même encore voilà très très sensibles, et on pense que voilà c'est la jeune génération qu'il faut aborder et casser un petit peu ces représentations.
Oui, parce que vous parlez de coparticipation avec les voyageurs, mais il y a aussi des actions où justement vous mélangez des voyageurs et des non-voyageurs, pardon, comme en milieu scolaire ou peut-être dans d'autres lieux, où vous pouvez justement faire se rencontrer et mieux se connaître.
Voilà. Et le festival, c'est aussi l'intérêt hein, pour nous d'avoir monté ce festival en 2006. C'est bien cela, c'est bien pour se rencontrer et pour travailler ensemble et sensibiliser au maximum. Mais ça, je pense que Nadine vous en parlera un petit peu plus.
Bah, je vous propose qu'on poursuive après une pause musicale. Donc nous revenons avec donc l'Artag, l'association régionale des Tziganes et de leurs amis gadjés, et la Maison des Passages. Donc on a présenté l'Artag. On va en venir au festival itinérance tzigane. Et justement, à ce propos, que venons-nous d'écouter ?
On vient d'écouter Danube de Django Reinhardt, qui a été interprété par le quintet de Sébastien Félix, qui tournera sur le festival Itinérance Tzigane.
Donc ce festival qui est une co-réalisation de l'Artag et de la Maison des Passages. Donc est-ce que ça fait longtemps que ce festival existe ? Comment vous êtes connu, rencontré, avez eu cette idée ?
On se connaît depuis très longtemps. Bonsoir, moi je suis Nadine Chopin, je suis la présidente de la Maison des Passages. Alors un petit rappel quand même, c'est vrai que l'Artag est membre fondateur de la Maison des Passages et toujours membre du conseil d'administration. Notre association donc existe depuis 2006. Nous sommes situés donc dans le Vieux Lyon, 44 rue Saint-Georges. Donc le projet, c'était de faire exister un espace avec un projet culturel dont le fondement est l'interculturel, qui selon nous n'est pas une méthode, mais bien un art de vivre. C'est ce que l'on prouve avec ce festival. Ce que je voudrais rappeler également, c'est qu'on a toujours choisi à la Maison des Passages de mettre en valeur les dynamiques des métissages pour contribuer à faire échec au repli ethniciste et identitaire. L'objectif de ce festival, c'est bien de contribuer à déconstruire les représentations sociales dans l'espace public par rapport à effectivement gens du voyage, et puis on s'était dit aussi d'inspirer les transformations égalitaires de demain. Après, on développera peut-être plus longuement comment les choses se sont développées au fil des ans. Je crois qu'en reprenant les flyers des festivals précédents, je crois que les titres sont assez édifiants, par rapport au projet et au contenu. Voilà, c'est un partenariat fort, je tiens à le rappeler. C'est vrai que c'est un gros travail que nous menons ensemble durant toute une partie de l'année. Et c'est un très très beau moment. Moi, c'est un de mes temps préférés, à la Maison des Passages. Alors, le festival n'a pas lieu, les événements n'ont pas lieu uniquement à la Maison des Passages, je tiens à le rappeler, puisqu'on travaille avec d'autres partenaires depuis des années, dont les bibliothèques, la bibliothèque de Lyon, les médiathèques. On vous en dira quelques mots.
Un festival itinérant qui est sur Lyon, qui va plus loin que...
Plus loin.
Maintenant, oui.
Il est régional, effectivement. On a démarré sur Lyon en 2006, donc à la Maison des Passages. Oui. On avait 3-4 partenaires, on était vraiment sur le Vieux Lyon. Et puis très vite, l'année d'après, on s'est dit qu'il fallait qu'il soit itinérant comme les voyageurs. Mmh. Et puis c'est vrai que l'Artag, comme la Maison des Passages, on a beaucoup de partenariats aussi, alors pour d'autres actions, mais on mène beaucoup de choses. Donc on s'est dit que là, c'était le moment peut-être d'utiliser entre guillemets le festival pour créer d'autres passerelles encore avec nos partenaires.
On retrouve d'ailleurs ce qu'on vient de se dire sur l'Artag, la question effectivement de l'ouverture, de la diversité des actions. Donc là, on rentre plus dans les actions plus effectivement grand public, mais avec justement faire connaître cette culture.
Oui, et puis tous les échanges, les rencontres à partir d'événements culturels, la musique, la peinture, la littérature, les lectures, qui sont présentes durant tout le festival. Mais on vous en parlera dans le cadre de la présentation de la programmation.
Oui, c'est ça, c'est que c'est vraiment un festival qui est pluridisciplinaire, et on tenait aussi à ce côté-là. C'est vrai qu'on a très peu développé, par exemple, le côté musical, comme d'autres... Oui. Festivals peuvent le faire, et très bien d'ailleurs.
Mais comme on vient de l'entendre, il y en aura quand même.
Mais il y en aura quand même, bien sûr. Alors là, et après, c'est plus des des coups de cœur ou en tout cas des, du soutien. C'est-à-dire que là, par exemple, la famille Félix, on la connaît depuis 20 ans. On a soutenu les pères à l'époque, les frères Félix. Et puis très vite après, il y a eu les enfants qui ont aussi cette transmission s'est faite intrafamiliale. Et voilà, on a voulu aussi continuer à soutenir parce que déjà c'est de grands professionnels et puis des gens qui ont une passion qui sont très ouverts aussi pour travailler avec plein d'autres musiciens, enfin voilà, c'est vraiment des valeurs qu'on partage avec eux, donc on est bien content de les avoir sur 5 dates là sur le festival. Donc pour revenir sur le côté régional, on travaille donc sur 4 départements cette année, voilà, autant de partenaires aussi hein. Il faut savoir que depuis 2006, j'avais compté, rien que sur le Rhône, une 60aine de lieux différents, de partenaires différents. Donc aussi bien des voilà, médiathèques, centres sociaux, écoles, lieux bien sûr institutionnels, CHRD, voilà, entre autres, cinéma, MJC, voilà, des lieux très diversifiés, donc aussi des publics très diversifiés. C'est le souhait, hein, c'est vraiment de toucher... bien sûr, les gens militants viennent, voilà, il y a des habitués hein, du festival, et puis tout un chacun qui va venir une fois pour du conte, une autre fois pour de la musique, et puis peut-être une fois aussi sur une conférence, voilà, un peu plus poussée ou des choses un peu plus techniques parfois. Voilà, donc c'est vraiment côté promotion des artistes, c'est clair, des artistes aussi du voyage, et puis bien sûr des artistes sédentaires. Qui participent aussi, qui portent des messages forts. Et puis, voilà, ce côté aussi pluridisciplinarité dans le sens où l'idée, c'est de montrer aussi qu'il y a de vrais artistes, de vrais artistes plasticiens, sculpteurs, peintres, qui parfois voilà, vont voyager énormément et sont exposés dans de nombreux pays, et moins en France. Peut-être parce que j'y tends, on ne sait pas. En tout cas, c'est ce que certains aussi pensent. C'est bien possible. De vrais artistes qui contribuent, qui contribuent aussi à la qualité du festival. Voilà, quand on voit vous verrez sur le site internet du festival, toutes nos affiches sont souvent superbes et illustrées par de très très bons artistes, d'excellents artistes, Gabi Gymnèse, Marina Rossel, entre autres, qui sont voilà des artistes. Qui portent la cause et qui ont un vrai talent.
Engagé, oui. Et militant. Oui.
Voilà, donc c'est vraiment ce côté-là qu'on défend. Voilà, donc action de sensibilisation, comme on en parlait, on ferait des écoles, ça c'est clair aussi. Et puis un lieu d'expression aussi pour les voyageurs, pour les familles qu'on suit. Alors c'est pas toujours évident, mais chaque année on essaye de monter une création. Voilà, une création théâtre, audio, musique, voilà, avec des metteurs en scène qui
donc une sorte de résidence
sorte de résidence. Donc cette année, c'est le collectif de l'Âtre qui nous accompagne pour une seconde année. Et cette année, ils sont allés sur les 4 départements.
Donc je ne sais pas si on a précisé les 4 départements en question. Donc...
Oui, bien sûr. Donc c'est le Rhône, bien sûr. L'Isère, qui nous a rejoint il y a pas mal d'années maintenant, depuis 2010, je crois. Et puis le Puy-de-Dôme, qui nous a rejoint il y a 2 ans, voilà, qui est très actif aussi.
Où aura lieu l'inauguration cette année.
Où aura lieu l'inauguration cette année. 14 novembre. Voilà. Et puis l'Ain. L'Ain, parce que voilà, on intervient aussi là-bas, qui a énormément de familles. Donc... voilà, pour les 4 départements sur lesquels on travaille. Je vais peut-être citer quand même les collègues. Donc dans l'Isère, c'est l'APMV, c'est l'association pour la promotion en milieu voyageur. C'est-à-dire que c'est aussi une association, ça c'est important, qui travaille auprès des gens du voyage. C'est un centre social mobile, comme nous. Et puis dans le Puy-de-Dôme, l'AGSGV 63, donc c'est l'association pour la gestion du schéma départemental des voyageurs. Un peu compliqué. En tout cas, ils travaillent aussi auprès des voyageurs et auprès aussi des collectivités, voilà, pour améliorer, entre autres, l'accueil et puis le stationnement des voyageurs. Voilà. Après, donc tous les partenaires, comme on a pu citer. On parlait du coup de la création.
Oui, parce qu'on parlait pluridisciplinarité. Oui, on a parlé. Il y a musique, il y a les arts plastiques. On va parler de la création. Je pense qu'il se passe également aussi de la littérature ou du cinéma.
Aussi, oui. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment ce côté pluridisciplinaire. Donc, bon, sur la création, ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'on a une thématique. On a une thématique chaque année qu'on met en avant. Thématique centrale qui, cette année, est la citoyenneté et l'égalité, plus largement. Donc, elle s'intitule des chemins vers l'égalité, cette édition. C'est une thématique centrale parce que l'accès à la citoyenneté a été très entravé quand même pendant des années pour ces citoyens français. Voilà, ils ont quand même toujours été soumis à un régime spécifique, particulier, comme des citoyens de seconde zone, mm-hmm. comme vraiment certains le disent, effectivement. Jusqu'à la loi d'égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, donc c'est tout récent. Donc forcément, c'est, voilà, tout un siècle, en tout cas le 20e siècle, hein, c'est un siècle quand même de fichage, dès la loi de 1912. Donc ça, on reviendra dessus sur le festival, par une soirée notamment, et une exposition qui s'appelle Nomade, et une soirée qui se passera le 29 novembre. Parce que, effectivement, très tôt, c'est les premières populations, hein, les nomades, qui ont été fichées en France. Fichées, donc, dès l'enfance jusqu'au bout. Ce fichage a permis au gouvernement français d'interner les familles, donc sous la Première Guerre mondiale, un petit peu, et surtout à partir de 40. Voilà, donc... l'internement dans une trentaine de camps en France. Donc effectivement, c'est des sujets importants pour nous, la mémoire. Enfin, c'est dommage que Jessica, notre vice-présidente, n'ait pas pu venir, qui est Manouche.
La mémoire et la transmission, parce que c'était le thème, effectivement, d'un des festivals des années auparavant.
Oui, même au sein des familles de voyageurs eux-mêmes, effectivement.
Et ça, c'est des sujets qui sont vraiment portés par les voyageurs, notamment du conseil d'administration, parce que tant qu'on ira ou tant qu'on ne connaîtra pas cette mémoire, ce ne seront pas des citoyens reconnus et respectés. Voilà, donc il y a eu, bien sûr, ces dernières années, par le gouvernement aussi, Hollande notamment, des améliorations de reconnaissance, un début de reconnaissance, mais c'est important de continuer à en parler.
Et vous parliez de la loi égalité citoyenneté, elle a changé justement cette question du fichage ?
Alors, donc elle a aboli... la loi de 69 qui justement imposait des titres de circulation aux gens du voyage et un statut très particulier, des contraintes incroyables et puis un contrôle forcément aussi systématique. Voilà, donc forcément tout ça, ça façonne des personnes, ça, par rapport à la société, ça vous met dans une position quand même très, très particulière.
On en parlait tout à l'heure, on demeure quand même sur des droits spécifiques.
Et voilà, on était sur des droits du coup spécifiques, forcément. Oui.
Ce qui est toujours le cas.
Alors, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, je ne sais pas si Charlène, toi, tu veux un petit peu plus parler de nos autres combats, enfin tout ce qui peut.
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de combats, beaucoup d'enjeux encore pour les voyageurs et du coup, effectivement, après la connaissance de l'autre, l'acceptation, tout ça, il y a aussi d'autres choses qui aujourd'hui ne sont pas encore résolues, notamment les questions de stationnement. Des gens du voyage, ce qui reste quand même une question un peu compliquée, souvent un sujet sensible.
Hein. Mais qui n'est pas résolu parce que les aires d'accueil ne sont pas...
Alors on a...
qui doivent être construites ne le sont pas ou...
Ça s'est beaucoup amélioré avec les aires d'accueil, mais peut-être aujourd'hui, en tous les cas, certains groupes familiaux, par exemple dans le Rhône, ne voyagent plus autant, mais stationnent encore sur des aires d'accueil et n'ont pas la volonté de vouloir bouger aussi souvent que la réglementation l'impose. Il y a la question aussi des aires de grand passage qui parfois sont trop petites. Mmh. Et du coup, on a entendu récemment justement dans des émissions le volet aires de grand passage en disant peut-être qu'il en faut plus dans le Rhône. ce qui était préconisé plutôt par l'Artag, c'est que c'était peut-être pas le nombre, mais plutôt la capacité d'accueil des groupes. Donc voilà, ça reste quand même un enjeu majeur. Il y a encore du stationnement illégal qui se fait. Ces gens sont soumis à des délais préfectoraux, du coup, qui sont soumis à l'expulsion, qui restent 10 jours à un endroit, 2 jours à un autre. Et du coup, tout ça véhicule des difficultés aussi pour eux, des difficultés de scolarisation, des difficultés de droit aussi, des ruptures de droit. Et le stationnement, du coup, reste un élément essentiel dans toute leur vie quotidienne. Et du coup, l'enjeu qui arrive suite à ça, c'est la question de la scolarisation, justement. Et la question de la scolarisation a amené beaucoup de situations d'illettrisme chez les gens du voyage, sur lesquels aujourd'hui on travaille. C'est un de nos enjeux majeurs, justement.
Et parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, l'école obligatoire, enfin, tout le monde sait lire.
Eh bien, non. Tout le monde ne sait pas lire. Alors, justement, on a... dans les communautés de voyageurs, effectivement, l'illettrisme reste très important. Et pour nous, c'est un enjeu principal sur les actions qu'on mène. C'est pour ça qu'on mène aussi des actions de remise à niveau de lecture et d'écriture, qu'on s'engage aussi, ou qu'on aimerait s'engager beaucoup plus sur la scolarisation des enfants. Parce qu'il
y a encore des enjeux de difficulté de scolarisation des enfants aujourd'hui.
Énormément par aussi l'éducation nationale. Hein, accepter des enfants 2 mois à l'école, les inscriptions, ça peut être compliqué. L'intégration dans les écoles, ça peut être aussi compliqué. Enfin voilà, il y a toute une dynamique qui reste à créer, justement, et puis qui doit essayer de s'adapter à tout ça. Alors, il y a des choses qui se font très bien, des établissements, des familles qui sont très organisées par rapport à ça, et d'autres beaucoup moins. Donc, voilà. Nous, on essaye en tout cas que la scolarisation se fasse au mieux pour que ces enfants grandissent au mieux et puissent se débrouiller plus tard.
Et puis, j'imagine que ces problèmes aussi de stationnement, ça peut aussi avoir des impacts sur les questions de santé. Quand on peut avoir besoin d'être suivi,
la santé reste. Les groupes familiaux voyagent aussi beaucoup en fonction des problèmes de santé des familles. Donc, du coup, effectivement, quand il y a une hospitalisation d'un membre de la famille quelque part, forcément, le groupe familial sera à proximité. Et du coup, ce stationnement-là, ils n'ont pas pu l'organiser avant, donc ils viendront stationner. S'il n'y a pas de place, ils stationneront là où ils pourront. Et effectivement, du coup, tout ça est très, très compliqué, en tout cas en domaine de santé pour eux.
Et puis parfois, la maladie ou le handicap ou empêche le voyage. Et ça, c'est très compliqué, parce que ça peut vraiment handicaper, pour le coup, toute la famille. C'est pas forcément adapté. Ils sont à domicile. C'est vrai que c'est... Ça demande une organisation et puis de la part aussi des pouvoirs publics ou
On voit déjà que le problème de l'âge et de la dépendance est compliqué pour les non-voyageurs, ça devient d'autant plus compliqué quand on a ces...
Et puis souvent les familles gardent leurs anciens, leurs malades avec eux.
Avec des communautés familiales qui sont très fortes.
Et oui, et du coup, ça veut dire aussi que les aidants, ça va être quelqu'un de la famille, mais c'est pas forcément reconnu. Donc il y a aussi tout cet accompagnement-là qu'on essaye de faire.
L'accompagnement médical dans une caravane reste compliqué. Effectivement, il faut aussi que les infirmières, les personnels soignants se déplacent au domicile, etc. Donc quand on est sur une obligation de bouger, parfois, c'est la problématique qu'on peut rencontrer, en tout cas aujourd'hui sur les aires d'accueil. C'est quand il y a quelqu'un qui ne peut pas bouger suite à des problèmes de santé, parce qu'il y a un parcours de soins qui a été mis en place et que l'infirmière qui est sur le secteur ne va pas aller sur une autre commune à 20 km. Ça reste un problème essentiel pour eux. Et du coup, on a un vrai travail qui s'engage sur le vieillissement, justement, et sur la thématique santé par rapport à tout ça, à l'habitat.
Et toutes ces problématiques, ces combats, est-ce que vous arrivez à les faire transparaître dans le festival?
Oui,
par l'intermédiaire de la question culturelle, parce que c'est aussi ça qui est important.
Bien sûr, l'enjeu aussi, bien sûr. Alors après, tout n'est pas forcément abordé, mais Oui, bien sûr, les grandes questions sont abordées dans le festival. Le festival sert à ça aussi. Hein. Et puis à faire venir les voyageurs à ce qu'ils prennent la parole. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la création. Et par exemple, cette année, la création à Marodrome, donc notre chemin. Donc c'est un peu notre chemin vers l'égalité. Hein.
Et donc ça a été co-créé, co-écrit
Donc c'est mené par le collectif de l'âtre. Collectif donc de comédiens, metteurs en scène, vidéastes, lyonnais, enfin en tout cas de la région, et qui sont allés donc à la rencontre des familles pour les interroger sur cette question d'égalité et notamment et aussi de la citoyenneté. Donc c'est vrai que beaucoup de sujets sont forcément abordés par les familles. Donc après c'est retranscrit, ce sera retranscrit donc le 1er décembre à la médiathèque de Vaise, ce spectacle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs médias. Il y aura de l'audio, de la vidéo et aussi des mises en scène de situations que les familles leur ont confiées. Donc, c'est des familles du Puy-de-Dôme, c'est des familles du Rhône, de l'Ain, de l'Isère. Donc, avec des réalités différentes, avec un rapport au voyage différent. Donc, il y a plein de choses qui seront abordées dans ce spectacle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les voyageurs, on sait que, comme tout un chacun, c'est très compliqué de monter sur scène et d'aller évoquer toutes ces questions qui peuvent être complexes. Là, l'intérêt, c'est aussi que ces artistes portent cette parole de manière très fidèle, d'ailleurs. C'est vraiment...
Ce festival n'est pas consensuel, hein, je tiens à le rappeler. C'est important parce qu'on évoque les rencontres, les débats. Mm. Souvent, même les voyageurs ne sont pas d'accord entre eux. Ça crée des moments très vif, très vivant, très vif, et d'où l'intérêt.
Bien sûr, c'est plein de réalités
de partir de ce vecteur artistique pour favoriser ces échanges et toutes ces réflexions.
Des choses qui émergent.
Ouais, absolument.
Et je vous propose, parce que je vois l'heure tourner, qu'on puisse faire un peu un qu'on présente la programmation, les moments forts.
Alors l'événement qu'on vient d'évoquer Aurélie donc aura lieu le samedi 1er décembre à 15h à la médiathèque de Vaise, mais je crois qu'il sera présenté sur un autre lieu en dehors de Lyon.
Voilà, donc on sera aussi dans l'Isère et puis à Issoire, le Puy-de-Dôme, pardon. On tenait à vous dire aussi qu'on a un site internet qui vient se créer pour le festival. Donc c'est important puisque là, on voit la totalité des événements et non pas que sur le Rhône. Donc c'est www.itinérancezigane, donc au pluriel,
tout attaché.com.
Voilà, donc les temps forts, on a parlé bien sûr de la musique avec le Quintet de Félix, que c'est des moments aussi importants et festifs. On aura aussi des jeunes gitans de Fézin qui viendront aussi en première partie du Quintet de Félix, donc le 17 novembre, qui joueront de la rumba gitane. Ça promet d'être bien vivant.
Ce sera où, donc le 17 novembre, le Quintet
à la Maison des Passages.
Maison des Passages.
Voilà, donc soirée musicale. Grosse soirée aussi le 22 novembre, soirée poésie et mémoire, donc avec l'artiste Anna Kupfer qui viendra interpréter des textes et des poèmes de Seija Stoschka, qui était une poète rome autrichienne et qui a connu les camps et qui a beaucoup, 40 ans après, qui a beaucoup écrit et peint. Ces scènes de vie. C'est vraiment un témoignage assez fort.
Oui, qui a milité jusqu'à sa mort d'ailleurs,
contre
le racisme, puisqu'elle vivait en Autriche, contre le racisme, et qui a combattu vraiment jusqu'au bout, sa mort en 2013.
Oui. Voilà, donc là, son recueil de poésie, Auschwitz et mon manteau, aux éditions Doucet. Donc voilà, ce sera une soirée qu'on animera donc à la Maison des Passages le 22 novembre avec l'Espace Pandora, Thierry Renard, et puis les éditions Doucet aussi. L'éditeur sera là, donc ce sera, je pense, une très belle soirée donc avec Anna Kupfer qui nous a accompagnés déjà plusieurs fois sur des actions en mémoire. Voilà, donc une projection aussi documentaire, alors là sur quelque chose de plus actuel, Rencontre en Nomadie, ce sera le samedi 24 novembre à 15h à la médiathèque du Bachu. Donc là, pour, sur les problématiques pour le coup que rencontrent les voyageurs aujourd'hui. Une grosse soirée aussi importante, bon, que j'ai déjà évoquée, le jeudi 29 novembre à la bibliothèque du Guesclin dans le 3e. Donc autour de, d'une exposition, d'une belle exposition de linogravure nomade qui a été faite à partir de fiches anthropométriques. Donc voilà, on n'a pas parlé de cette, cet aspect de la mémoire, mais en tout cas, bon, voilà, ce, ce fichage, très tôt, donc en 1912, a été imposé le carnet anthropométrique. Donc c'est un carnet vraiment comme si c'était des criminels, qui étaient imposés aux nomades.
Une face de côté avec la règle derrière.
Exactement, et les empreintes digitales et toutes les données anthropomorphiques possibles. Donc c'est, voilà, cette exposition a été réalisée à partir de ces fiches. Donc c'est assez fort comme, comme expo. Et ça sera suivi donc, après ce vernissage par la, la projection du documentaire « Histoire du carnet anthropométrique ». Qui est un très bon documentaire de Raphaël Pilosio, donc sur cette, cette histoire du carnet et comment justement elle a été transmise dans les familles, parce que c'est lourd voilà, de conséquences, bien sûr, dans les familles, d'avoir cet héritage-là. Et puis, voilà, on a aussi donc, une belle expo qui sera dans l'Ain et dans le Rhône, à la médiathèque de Francheville, exposition photo Nouvelle route de Lucie Morayon. C'est une expo qu'on a accompagnée l'an dernier, des portraits photographiques de voyageurs de Vénissieux. Voilà, ce que Vénissieux, donc il y a un terrain sédentaire hein, de voyageurs qui sont là depuis quelques décennies et un habitat adapté en tout cas a été créé pour les familles. Donc voilà, c'est des portraits de ces familles, des témoignages sur toutes ces familles. Et puis, il y a aussi une aire d'accueil à Vénissieux. Donc voilà, c'est aussi montrer des réalités différentes, un rapport au voyage différent. Donc une belle exposition photo. Et on finira le 1er décembre donc, avec Amarodrome, notre création de cette année. Voilà pour les rendez-vous. Donc ça, c'est exclusivement sur le Rhône. Et puis, ben, j'invite les auditeurs à aller voir le site pour les rendez-vous dans le Puy-de-Dôme et en Isère.
On peut se procurer le programme papier que vous avez dans les mains
Alors, vous pouvez le récupérer à la Maison des Passages, bien entendu, et puis nous le distribuons dans différents lieux, dans les librairies, dans les médiathèques, dans les bibliothèques. Voilà, donc il est, on trouve...
On peut en laisser à Radio Canyon aussi.
Radio Cailloux est un lieu qui accueille justement aussi toutes ces infos, ces tracts. Ouais. Il ne faut pas hésiter à y passer pour,
c'est vrai.
Pour récupérer de l'info. On est aussi là, on est aussi un lieu ouvert comme, comme le festival et vos associations.
Voilà, est-ce que vous voulez qu'on rajoute
Je reviendrai bien, parce que on aime bien terminer l'émission avec aussi comment les auditeurs peuvent... peuvent s'investir. Donc effectivement, là, il y a venir au festival, c'était aussi le but de l'émission. Mais on a évoqué la question du bénévolat. Alors ça peut être autant, j'imagine, pour le festival que pour l'Artag. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas forcément de compétences extrêmement énormes à avoir. C'est toujours...
Surtout
de la rencontre et...
De volonté. Sur le festival, du coup, on a 4 bénévoles là, qui sont venus nous rejoindre cette année... en tout cas en amont sur la diffusion, donc c'est très sympathique.
Et on a une salariée de la Maison des Passages qui n'est pas bénévole, mais qu'on voudrait saluer ce soir, qui n'a pas pu être présente, qui travaille avec Aurélie sur la Floria, qui est chargée de développement culturel, et on la remercie.
Et comme vous disiez, en plus, ce festival, c'est pas juste le moment, le mois du festival, des mois et des mois aussi, d'une année sur l'autre de préparation, et qui aussi, c'est aussi des bons moments de découverte d'artistes qu'on a envie de programmer, de faire passer, de faire connaître.
Voilà, et puis plein d'actions effectivement tout au long de l'année avec les lieux partenaires, médiathèques, écoles, centres sociaux. Voilà, et puis à l'Artag aussi, je pense qu'il y a des créneaux aussi où les gens peuvent être voilà, venir prêter main forte.
Oui, bien sûr, on a eu le soutien de bénévoles l'année dernière, justement, sur diverses actions. Donc nous, on invite toutes les personnes qui ont envie de venir rencontrer des voyageurs, de porter des projets, des actions. On a toujours besoin de personnes qui sont dans l'envie, en fait, de cette rencontre et du partage. On a des ateliers informatiques, on a de l'apprentissage à la lecture et à l'écriture. Enfin voilà, on a diverses choses. L'idée, c'est de ne pas avoir forcément des compétences, mais voilà, c'est cette envie de rencontre qui permet en tout cas que ça se fasse d'une manière conviviale. Et nous, c'est un peu ce qu'on attend. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, venir nous rencontrer.
Et je rappelle vite fait les grandes dates. Donc le 17 novembre, le quintet de Félix à la Maison des Passages. Le 22 novembre, soirée poésie, mémoire à la Maison des Passages aussi. Le 24 novembre, projection rencontre en nomadie à la médiathèque du Bachu. Le 29 novembre, à la bibliothèque du Guesclin, donc l'exposition Linogravures, les fiches anthropométriques et le documentaire sur les carnets anthropométriques. Et le 1er décembre, la création, le spectacle Amarodrome, Nos chemins vers l'égalité, à la médiathèque de Vez.
Merci à vous.
Merci.
Vous pourrez retrouver toute la programmation du festival donc sur le site, donc je le rappelle, www.itinérancetzigane.com. Et on se retrouvera dans 2 semaines